8h. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Hey. All right, Oli. Ben ouais, ça a pris deux semaines, puis tu t'en es C'est bon.
Nette amélioration quand même. Ouais,
absolument.
Salut Alain Crête.
Allô, Alain. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous autres?
Ça va bien.
Très bien, Alain.
On a particulièrement beaucoup de plaisir aujourd'hui. Bon, c'est un peu chicané tantôt sur l'avantage numérique.
Je suis allé sur le Wikipédia là, pour montrer aux jeunes là, c'est à qui Ron the Floor. Il dit qu'il volait des buts, puis il volait des chars.
Oui.
Il volait des chars aussi.
Ah, sacré Gilbert.
Les expos en a eu quelques-uns comme ça, là, des spéciaux.
Rodney Scott, il y en a eu, là. Ouf,
Ellis Valentine.
Ellis Valentine, Pasquale Perez. On a eu des Ellis Valentine.
Ben, t'avais...
Quel talent.
Spaceman.
Mais c'était tout un joueur de balle, par
Billy.
Exemple. Il y avait un bras, lui, là. C'était
Ellis Valentine, le meilleur bras dans la ligue. Sérieux, là.
Ça, c'est les grandes années de l'arrivée de la coca dans les vestiaires du baseball.
On disait que les gars avaient leur petit sac dans la poche en arrière de leur
pilote. Pour rien que les gars plongeaient tête première et non glissaient en quatre sur les jambes.
Ouais. Tim Raines avait dit ça dans un documentaire ou dans un livre ou quelque chose. C'est incroyable.
L'époque, la poche déchirée et que le sac sort.
Je me souviens,
il y a une couple d'années.
On fasse les lignes avec ça, tu sais.
C'est ça, exact. Il y a quelqu'un qui avait écrit ça il y a plusieurs années, un match CF Montréal, l'Impact à l'époque au Stade Olympique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les lignes n'étaient pas à bonne place.
Ben oui,
on peinturait les mauvaises lignes, on en refaisait d'autres. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit dans mon entourage, on aurait demandé à Ellis Valentine de s'en occuper. Il était bon pour faire des lignes au Stade Olympique. Les belles années. Hier, le Canadien de Montréal a sorti un documentaire sur les coulisses de son repêchage. Puis moi, j'adore toujours cet exercice-là. On en voit un peu plus. On voit comment les dépisteurs, quelle opinion ils ont sur les joueurs. Évidemment, c'est romancé. Évidemment.
C'est un peu différent, Tony, par exemple, à cause que c'était pas tout à fait la même affaire que dans les années passées, à cause qu'il était comme pas sur place.
Ça, c'est sûr que le fait qu'il était pas sur place, c'est différent, vu qu'il était en décentralisé. C'est un bon point, Gilbert, mais ça reste que c'est le fun. Puis c'est sûr qu'il lui montre juste les joueurs qui ont finalement repêché. Puis en écoutant ça, t'as l'impression qu'ils ont juste frappé des coups de circuit. Ça, c'est vrai. Mais le point qui m'a interpellé le plus, c'est lorsqu'ils sont pas 100% convaincus sur la sélection d'Alexander Zarovski. Kent Hughes se dit, je prends le téléphone puis j'appelle Ivan Demidov pour consulter l'opinion de mon joueur, pour lui montrer que son opinion au sein de l'organisation, il compte pour nous. Alain, aime-tu ça voir un directeur général qui prend le téléphone puis qui se fie pas juste à l'information puis qui se dit, je vais aller chercher toutes les informations possibles pour prendre la décision la plus éclairée possible?
Moi, ce qui m'étonne, tu vois ça assez souvent dans le hockey. Exemple, un directeur général veut faire une transaction. Il va appeler un joueur de son équipe qui connaît le joueur qu'on veut obtenir ou qui a déjà joué avec lui. Mm-hmm. Tu sais, un vétéran, il va te dire, t'as joué avec, toi, tu le connais depuis les rangs juniors, t'as joué avec dans la Ligue nationale, comment est-ce qu'il est? Est-ce que c'est... Comme ils ont fait avec Suzuki, par exemple, avant de faire la transaction Patrick Laine, Kent Hughes a parlé à Nick Suzuki pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait.
Exact.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il demande à Demidov. Tu sais, on l'aime beaucoup, Demidov, puis on pense qu'on va faire un grand joueur, mais à date, là, il demeure un projet, lui-là. Là. Tu sais, il n'y a pas encore rien à
faire mal, tu viens de faire mal en taux, là, dans le projet, là.
Mais tu sais, mets-toi dans la peau.
Ouais, t'as raison.
Ils ont tellement confiance en ce gars-là qu'ils sont prêts à le consulter pour savoir s'il devrait repêcher un tel joueur. Puis on parle d'un gars qui a joué 7 matchs en carrière dans la Ligue nationale, là. Alors, ça te donne une idée à quel point ils l'ont en haute estime dans l'organisation. Ouais. Parce que tu vois pas ça souvent avec des recrues. Tu vas voir ça avec un vétéran pour une transaction, par exemple, des choses de même. Mais ces documentaires-là, souvent, moi, je me souviens l'année qu'on a repêché Cole Caulfield, le Canadien, avait sorti un extrait où tu vois Marc Bergevin et Trevor Timmons à la table du Canadien, téléphone sonne. Et il y a un club qui est intéressé à avoir le choix du Canadien.
Ouais.
Et c'est l'année qu'ils ont repêché Cole Caulfield.
C'est Vegas qui avait offert un choix de 3 pour grimper de 2 rangs.
Puis là, Timmons, il dit on trade pas, on garde le pic.
Mm-hmm.
Puis là, Bergevin, il dit t'es sûr? Oui, on garde. L'autre cas que je me souviens, c'est il y a quelques années, ça implique encore Marc Bergevin. Il y avait des rumeurs que le Canadien voulait repêcher Samuel Morin, le défenseur.
Ouais, grand défenseur.
Arrive au repêchage, et là, finalement, il y a des rumeurs que Canadien a appelé, c'était Ron Extall, je pense, qui était directeur gérant des Flyers, a appelé Ron Extall pour avoir le choix des Flyers pour repêcher Samuel Morin. Et Marc Bergevin s'était toujours défendu, avait dit « on n'a jamais fait ça ». Sauf que les Flyers, ils font la même chose, ils font un documentaire sur le repêchage, et dans la salle, le War Room des Flyers, Ron Extall fait le tour de ses dépisteurs et il leur demande « est-ce que je devrais échanger mon pic? Le Canadien veut drafter Samuel Morin ». Est-ce que les dépisteurs ont dit non, on va drafter Morin, garde le pic. Mmh. Et Marc Bergevin avait toujours dit, j'ai jamais fait d'offre aux Flyers pour leur choix de repêchage. Alors, c'est intéressant quand même, tu sais, il faut que tout le monde accorde ses violons. Là. Tu vois qu'il y a des organisations où on n'a pas la même version, mais ces documentaires-là, c'est toujours intéressant. Comme là, j'ai commencé à regarder la reconstruction, la deuxième saison. Je vous ai peut-être tantôt parlé de la NFL. Tu sais, la série Hard Knocks là, de NFL Network, là, ça, tu sais, c'est vraiment... Ça, c'est peut-être la première fois où on a vu des caméras entrer là dans les vestiaires, dans les bureaux des équipes de sport professionnels. La Ligue nationale a commencé ça avec le Winter Classic. Là. On suivait les deux clubs qui allaient s'affronter le 1er janvier.
Ouais.
Mais là, tu vois ça de plus en plus maintenant. Puis avec l'arrivée de Netflix, et là, tu as eu celle sur la F1, tu as eu celle sur les corps arrière, tu as eu celle sur les golfeurs, t'en as de plus en plus maintenant. Puis les clubs n'ont pas le choix. Faut que tu ailles là maintenant, les gens veulent ça.
Oui, puis celle sur la lutte est particulièrement très bonne. Honnêtement, ouais. Là, on voit beaucoup de choses de coulisses, des coulisses de la WWE. Si vous êtes fan de lutte, je vous le conseille.
Ouais. Regardez, elle n'est pas si loin que ça, le repêcheur de Slavkovski. Shane Wright était... Mm-hmm. On pensait que Shane Wright n'était pas sorti premier. Il est sorti quoi? Cinquième?
Quatrième.
Quatrième.
Hey. Ouais. Et ça a été... y a-tu quelqu'un qui a parlé à quelqu'un à quelque part? Y a-tu quelqu'un qui... ils se sont informés. Il est comment? Il est comme si? Je sais pas, là.
Je reviens à Zarowski une seconde parce que le Canadien, dans les dernières années, je trouvais qu'on repêchait beaucoup l'ami de l'autre, le chum de l'autre, le frère de l'autre. Ça a été le cas avec les Jacky. Que Florian, c'est un mauvais choix, mais on peut se poser la question. Un overager quand même assez tôt. Est-ce que c'est passé le frère de l'autre? Atosko et vous? C'est-tu passé le fils de Sakou? Ouais. Philippe Mécheur? C'est-tu parce que c'est l'ami de Slavkovski? Ces questions-là, à tort ou à raison, ont été soulevées par les gens. De voir que Zarowski, Tony, a été sélectionné et que c'est comme à la recommandation, là, j'exagère un peu, mais quand même, la bénédiction d'Ivan Demidov, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, moi, j'étais sur deux tableaux. Un, bien content que qu'on puisse s'appuyer sur le commentaire de Demidov. Je pense que ça montre beaucoup de respect pour le jeune homme, qu'il connaît bien. Pourquoi ne pas profiter d'une ressource de plus? Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je trouve ça bien que le Canadien tente de développer une genre de filière russe, on peut l'appeler comme ça, parce que Demidov, avec la barrière de la langue, l'ajustement, s'en venir ici, c'est quand même beaucoup pour lui. Si on lui greffe un gars dans 2-3 ans, ben Zarowski, la transition va être encore plus facile s'il peut travailler avec un gars comme Demidov. Alors ça, je vois ça d'un bon œil, et tu vois vraiment, dans les réactions du Canadien à la table, avant de s'avancer pour aller repêcher Zarowski, qu'on visait un coup-circuit à ce rang-là. Ça m'interpelle. On n'avait plus de choix de première ronde. On a décidé de s'avancer début de deuxième tour pour aller chercher du talent. Et ça va vraiment différemment de ce qu'on a vu par le passé, où on visait des choix un petit peu plus sûrs, alors que de temps en temps, tu laisses du talent de qualité sur la glace.
Ouais, c'est même les gens qui l'ont pas vu, le vidéo, là. Au final, il y a un aspect qui m'a marqué. Kent Hughes, à un certain moment, dit « Si jamais ça tombe à l'eau, la transaction d'Hobson, on va essayer de s'avancer pour monter entre le 6e et le 10e rang. » Puis il y a des dépisteurs qui l'ont dit ouvertement « À 95%, on repêchera pas 16e et 17e. » Tu le vois, Alain, que le Canadien... tranquillement, la mentalité, elle change. Pas qu'on a évolué, c'est juste qu'on n'est plus à la même place dans le cycle. On est rendu à un endroit où est-ce qu'on veut regarder par en avant et c'est fini l'accumulation de choix. Présentement, on veut avoir des actifs qui peuvent venir aider l'équipe pour gagner des matchs de hockey.
Non, puis on parlait hier de Logan Mailloux. Non seulement des choix de repêchage sont prêts à se départir de choix de repêchage, mais de jeunes joueurs qui faisaient partie de cette reconstruction-là. Mailloux, il était dans cette vague de jeunes joueurs qui devaient éventuellement arriver à Montréal. Ça n'a pas été le cas, alors on a dit on peut se permettre de l'échanger pour Zach Bolduc. Les choix de repêchage, c'est la même chose. Évidemment, on n'est pas prêt. Tu sais, dans le cas de Carey Price, on n'était pas prêt à donner un choix de première ronde. Je peux comprendre, Price ne jouera plus au hockey. Mm-hmm. Fait que tu donnes pas. Tu sais, c'est un cas complètement différent de celui de Sean Monahan, par exemple. Monahan, donc, ils ont pris le contrat, mais Monahan pouvait jouer au hockey. Là, il n'était pas à la retraite. Mm-hmm. Alors, mais le Canadien est rendu là maintenant. Je pense qu'effectivement, et là, il y a le problème du deuxième joueur de centre qui n'est pas réglé. Éventuellement, Canadien pourra peut-être, avec l'espace qu'ils ont sur la masse salariale, ajouter un espoir, ajouter un choix de repêchage pour aller chercher un joueur de centre qui va cadrer dans la philosophie de l'équipe, jeune joueur qui peut être avec l'organisation longtemps. Parce que tu l'as dit, là, ils n'ont accumulé puis accumulé puis accumulé des choix de repêchage. Mais là, à un moment donné, ça sert à ça, éventuellement pour passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, ça prend des joueurs qui peuvent jouer maintenant dans la Ligue nationale puis faire avancer l'équipe. Mais dans le cas pour Demidov, pour en venir à Demidov et au fait qu'on l'a... C'est sûr que le Canadien semble avoir de très bonnes antennes en Russie. Alors, on devait déjà avoir une foule d'informations.
Une bonne idée, ben oui.
C'est ça. Ouais. Mais là, on se dit, écoute, c'est le chum à Demidov, il connaît, je sais pas si on joue ensemble le hockey mineur ou le junior en Russie, là, mais pour juste lui demander, tu sais, ce qu'il voulait savoir, bon, c'est son éthique de travail. Comment il est dans le vestiaire? Tu sais, si tu es un troublemaker dans le vestiaire.
C'est une bonne personne. That's it.
C'est ça. Tu sais, pour pas quelqu'un qui va arriver, là, puis qui risque un peu de briser l'ambiance puis l'esprit que tu as créé au sein de cette équipe-là. Tu sais, je pense que le talent du joueur, on le savait. On était au courant de ses qualités, mais plus sa personnalité, peut-être, comment il est comme personnage.
Exact. Puis il l'a dit, Ken Hughes, je le sais que tu as déjà parlé à Nick, clairement, Nick Bobrov avait déjà fait l'exercice, mais Ken Hughes, ça ne change rien de repasser un coup, juste m'assurer. Ce sont des sélections importantes.
Ah ouais.
Ce sont des investissements importants, puis en plus, dans le cas de Zarovski, ça implique une transaction de s'avancer. Fait que c'est pas juste de repêcher un joueur, c'est de dépenser des munitions pour le repêcher. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du Canadien, si vous voulez écouter l'intégrale de ce vidéo. Alain, reste là, après la pause, on poursuit notre sondage. Et la première question que j'ai pour vous, qui sera le défenseur numéro un des Canadiens cette année? Les résultats pourraient vous surprendre. Alain, selon toi, qui a remporté la palme chez nos auditeurs, parce qu'on a sondé 600 personnes, qui, selon nos auditeurs, est le défenseur numéro un du Canadien cette année?
Écoute, comme tu as dit avant la pause que le résultat est surprenant, mon premier choix aurait été Lane Hudson. Mais comme tu as dit que ça allait être surprenant, je vais dire Noah Dobson.
T'es très fort, Alain. Noah Dobson à 57,8%, Lane Hudson à 30,5%, Caden Goulet à 11,3% et Mike Madison de 0,5%.
Caden Goulet à 11,3%?
Ouais.
Mais dans le cas de Goulet, parce que je pensais à ça durant la pause, tu sais, Goulet, je regardais, là, il n'a pas joué beaucoup de saisons complètes depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Lui, là,
c'est vrai.
Il est souvent blessé. Mm-hmm. Et l'autre chose dans ce genre d'exercice-là, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est quoi la définition d'un bon défenseur? Est-ce que c'est le gars qui ramasse le plus de points? Tu sais, je vais vous donner un exemple. Prenez les Quinn Hughes de ce monde, les Lane Hudson.
Eric Carlson.
Carlson, c'est ça. Ben, mettons Hudson, Hughes, est-ce qu'ils sont meilleurs que Jacob Slavin?
Non.
Qui est considéré...
Ça dépend de quoi tu parles.
Mais ce qu'on dit dans la Ligue nationale, c'est que si on donnait le trophée du meilleur défenseur, vraiment au meilleur défenseur, c'est Slavin qui le gagnerait chaque année.
Ouais.
Mais c'est les points maintenant. Tu as parlé de Carlson, puis là, tu as parlé, tu sais, c'est ça qui détermine qui est le meilleur défenseur.
Pour toi, Alain, un défenseur numéro un, c'est-tu le défenseur le plus complet? Ce serait ça ta définition?
Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut que tu cherches à avoir.
Le meilleur défenseur.
T'as un gars qui ramasse des points, mais un gars qui peut tuer des punitions, va jouer sur ton power play, va jouer à 5 contre 5, va jouer dans des situations critiques. Un gars qui, tu sais, qui peut boxer out devant le filet, un gars qui peut ajouter un peu de robustesse. Tu sais, c'est sûr que le package complet, il est dur à trouver.
Cale Makar, de loin, c'est le meilleur défenseur de la Ligue.
Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais est-ce que je l'ai pas assez vu jouer? Est-ce que défensivement, il est...
Oui, défensivement, il est très bon, très mobile. Tu le battras pas un contre un, Cale Makar.
Il
est
un excellent
bon. Parce qu'il y a un coup de patin extraordinaire.
Il revient, il ferme le gap, il neutralise le joueur.
De loin, le meilleur, ouais.
Mais quand on parle de Makar, on parle souvent de ses points en partant. Mm-hmm. C'est souvent ça qui sont... Mais c'est ça, c'est pour ça, tu sais, c'est... Tu sais, Dobson, je peux comprendre parce que il réunit beaucoup de ses qualités-là. Il a le gabarit, il peut ramasser des points.
Mais il n'est pas physique. C'est pas un défenseur.
Non, c'est pas un top.
Il a beau être grand et gros, et c'est pas un top. C'est pas un gars qui frappe.
Mais
là,
je suis quand même d'accord avec les gens. Pour moi, c'est Dobson, suivi de Hudson, suivi de Goulet, suivi de Madison. Moi, ça serait mon classement.
Moi aussi.
Toi, Gilbert, ça serait quoi ton classement?
Ben, c'est moi, j'aime beaucoup Caden Gooley, je vous l'ai déjà dit, sauf que vous avez raison dans les arguments que vous amenez. Il ramasse pas assez de points. Tu sais, pour moi, un défenseur complet, là, moi, je compare un Raymond Bourque, ça, c'était vraiment un défenseur. Hein, Alain, tu l'as vu, tu sais, il jouait dans cette époque-là. Lui, il ramassait des points, défensivement, il était solide, il frappait et tout ça. Tu sais, vous avez raison. Moi, je pense que Dobson va être le défenseur numéro un. Puis, tu sais, pas par défaut, mais à cause que Hudson va ramasser beaucoup de points aussi, ça va être notre défenseur numéro deux. Mais en même temps... Ça veut-tu dire que je vais avoir ces gars-là, mais qu'on protège une avance pour finir la game? Pas pantoute.
Non,
mais
c'est Gaulet qui va être le défenseur.
Exactement. L'aspect robustesse. Niklas Lidström, là, dans le temps, là, tu vas dire, je te donne l'exemple peut-être des meilleurs de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais. Tu sais, souvent, les gens disaient, c'est pas un gars robuste. Pas un gars robuste, il a toujours la rondelle.
Ouais,
mais... c'est lui qui a le puck.
Ouais, mais en tout respect, là, on comparera pas Lindstrom avec Dobson. Là,
Non, je le sais. Mais, tu sais, l'aspect robustesse, des fois, il faut faire attention avec ça. Là. C'est toujours... Si tu frappes, c'est parce que t'as pas la rondelle, tu vas aller la chercher.
Bon, mais je vais avoir un défenseur qui est dur à affronter. Puis, tu sais, honnêtement, Noah Dobson, il est grand et gros, mais il est... C'est pas un gars mine, c'est pas un gars chien. Tu comprends?
Mais il va quand même t'avaler 25 minutes.
Oui, mais tu comprends, je veux dire, là, tu sais, tu protèges en avance quelque chose. Moi, je vais, tu sais, un goulet va te donner un cross-check dans le bout du dos.
Ouais, mais chacun son rôle.
C'est ça, exactement.
C'est pour ça qu'ils vont jouer ensemble.
Jake Evans n'est pas le meilleur joueur du Canadien.
Je pense que oui. Je pense que oui. Ils vont jouer ensemble, exactement.
Jake Evans n'est pas le meilleur joueur du Canadien. Il va voir la glace en fin de match pareil. Là.
Josh Anderson, la même chose, mais ils vont être là en piqué, puis ils vont être là à fin de game protéger en avance, c'est sûr.
Puis je te rejoins à 100%, Tony. Pour moi, c'est cette paire-là. Il y a des gens qui disent, pourquoi est-ce qu'on ferait pas Dobson droitier que Madison gaucher? Je pense que les deux seraient trop à risque ensemble. Ouais. Je pense pas que c'est une bonne idée.
C'est Gooley Dobson ensemble.
Mais
ça, c'est...
Dobson a un peu plus de liberté, puis Gooley, c'est un peu comme tu faisais dans le temps. Hein, vas-y, va t'amuser en avant, mais reste un peu plus en arrière.
Moi, j'ai vu une coupe de game avec Paul Coffey, il me disait, hey, give me the puck. Don't worry, Paul, you're going to get the puck. Elle restera pas trop longtemps sur ma palette. Ah oui, vas-y avec, je regarde aller.
Mais c'est correct, puis c'est là où est-ce que chacun a sa définition de défenseur numéro un. Si je twiste un peu la question, est-ce que c'est Noah Dobson pour vous qui va finir avec le plus de temps de glace à la défense?
Oui.
Écoute, je ne sais pas, mais il joue à peu près quoi? C'est 24-25 minutes par match à peu près?
Ouais.
Moi, je me souviens d'avoir vu à la Coupe Memorial quand il jouait pour le club en Abitibi. Je ne sais pas si c'est Rouyn ou...
Rouyn-Noranda. Il avait gagné la Coupe.
En prolongation, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il avait passé 50 minutes de la glace. Non. Lui, là, c'est un cheval, sa patinoire. Il prend des minutes. Ah ouais, il est capable de jouer, là. Il est incroyable pour ça. Tu sais, c'est un gars qu'on va probablement avoir en désavantage numérique. Il va prendre la place de David Savard. Il va avoir du temps en avantage numérique. Son 5 contre 5. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il va en avoir des minutes.
Puis, oubliez pas.
Il va peut-être permettre. Ses qualités offensives vont peut-être permettre d'en donner un peu moins, peut-être, à Hudson. À un moment donné, Hudson, à la fin, là, il jouait 26, 27, 28 minutes par match. Là.
Ouais.
Peut-être que là, il va en prendre un petit peu de ces minutes-là, lui, pour libérer les notes.
Ben, tout le monde va tomber comme dans une meilleure chaise. T'sais, Matheson va moins jouer aussi un peu. Exact. On va avoir plus d'énergie. Hudson, c'est bien beau. Il était très extraordinaire l'année passée, mais il y a des games qui jouaient 28 minutes. Il paye 147 livres tout mouillé. Là. À un moment donné, là, ça va te rattraper.
Puis n'oubliez pas pour Dobson, c'est un peu insultant lorsque tu es un joueur franchise comme ça que finalement, regarde, ça fonctionne plus. Il y a des frictions avec l'entraîneur. Les statistiques sont pas au rendez-vous. Tu te fais casser les oreilles. 70 points, c'est une anomalie. Il est pas si bon que ça. Moi, je pense qu'il va arriver le couteau entre les dents. Il va vouloir prouver à tout le monde que c'est un excellent défenseur. Puis je pense que Martin Saint-Louis, comme on l'a vu justement dans le documentaire hier, il est très bon pour motiver ses joueurs. Très hâte de voir.
C'est un bon fit pour le Canadien.
Moi, je vous dis, les gars, je sais que c'est pas le même calibre, mais j'en ai vu des centaines des matchs dans l'hockey junior. Vous le savez, là, j'en ai fait du hockey en masse. Si j'avais à choisir un défenseur qui m'a le plus marqué depuis 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, Noah Dobson fait partie de mon top 3.
Ah oui, hein?
Ben, il était tellement dominant. L'année de plus qu'il a joué. Là,
Rouyn-Noranda était exceptionnel. Ça, c'était à 18 ans. Mais à 17 ans, avant son repêchage... C'est lui qui amène le Titan à Caddy Mather jusqu'au bout avec Mario Pouliot. Il avait sorti l'Armada. C'était incroyable cette année-là. On avait fait les matchs à la radio. Et lui, c'est pas compliqué. Là. Il était toujours là. Le coach faisait par exprès pour l'embarquer juste avant les pauses de la télé, parce que les matchs étaient tous à la télévision. Il était là sur la présence et, avant la télé
puis après.
Et tout de suite après. Ouais. Il jouait quasiment, quoi, 30, 35. C'était incroyable. C'est, ouais. C'est vraiment un cheval. C'est la meilleure explication.
T'as pas vu les games des Saguenay à Chicoutimi à la fin des années 70?
Non, hein? Ça, malheureusement, je n'étais même pas encore dans les pensées de mon père.
Un cheval en arrière. Hein?
C'est pour ça que ton numéro est au sommet du champ de Jean-Jésus aujourd'hui.
Merci Alain, on se parle demain.
Bye.
Bonne journée.